Vous écoutez France Culture.
7h19, comme chaque vendredi, Le Monde selon Hubert Védrine. Bonjour Hubert Védrine.
Bonjour.
Alors ça y est, donc c'est fait, enfin, ou presque, hein, dans la nuit de mercredi, de mardi à mercredi dernier, Angela Merkel a bouclé son accord de grande coalition avec, a priori, le concurrent, je ne sais, l'adversaire, l'ennemi de toujours, le parti social-démocrate allemand, le SPD, pour former donc son troisième gouvernement. Ce sera avant Noël, il faut tout de même attendre que les 474 militants allemands du SPD approuvent l'accord d'ici la mi-décembre, et seulement à partir de l'annonce du résultat, le gouvernement de coalition sera formé. Un commentaire, est-ce que l'Allemagne, peut-être, dont on dit toujours que c'est un modèle, réalise ce que la France n'arrive toujours pas à faire, justement, cette question de coalition, de compromis, de gouvernement centre-gauche, centre-droite ?
Attendez, avant de sauter à cette...
Oui, alors, commentaire de...
Au-delà des conclusions avec cette question, c'est quand même très intéressant et frappant cette affaire, parce que déjà, ça fait maintenant longtemps qu'on attendait en Europe les élections en Allemagne. Donc on voit l'importance de l'Allemagne et l'importance du système électoral. Et beaucoup d'analystes disaient, même après l'élection de François Hollande, le seul moment d'une vraie peut-être relance sérieuse de la coopération franco-allemande, ce serait après l'éventuelle réélection de Merkel, quelle que soit la configuration, sauf si c'était plus elle. Et là, elle a gagné largement comme chancelière, mais la CDU n'a pas gagné la majorité absolue. Il faut rappeler qu'il y a en Allemagne un double système. Depuis l'après-guerre, les Allemands se méfiant des emportements du vote populaire majoritaire. Et donc c'est un système très compliqué dans lequel il est quasiment impossible d'avoir une vraie majorité absolue. C'est difficile. D'ailleurs, même quand c'est homogène, c'est quand même CDU-CSU,
par
exemple.
Oui, par exemple.
C'est une sorte de petite coalition, déjà. D'où ce travail, et ça fait quand même 2 mois qu'ils négocient. Dans le détail. Alors, ce qui me frappe, moi, ce n'est pas tellement le contenu, d'ailleurs, de l'accord, qui était à peu près prévisible, que plusieurs choses. D'abord, cette culture de négociation. C'est étonnant. C'est tellement le contraire de ce qui se passe dans beaucoup de pays d'Europe, et notamment en France. C'est une culture de négociation également syndicale. Les fameuses lois Schröder, qui ont redonné à l'Allemagne une très grande compétitivité sur les marchés mondiaux, et qui sont d'ailleurs... admiré par tous les organismes économiques internationaux, mais critiqué un peu en Allemagne, y compris par une partie du SPD, elles ont été négociées aussi. Elles n'ont pas été imposées par des ordonnances en Allemagne. Il y a une négociation syndicale dans le cadre des lois Hartz 1, 2, 3, 4. Après, il y a une culture ancienne, donc il y a des précédents. Il y a eu plusieurs coalitions. Il y a eu des coalitions CDU-FDP. C'est celle qu'avait Helmut Schmidt au moment de l'élection de François Mitterrand. Et quand le FDP avait lâché Schmidt, SPD, s'était allié avec Kohl, CDU, il y a eu un changement de coalition, encore coalition. Il y a déjà eu une première grande coalition, CDU-SPD. C'est pour ça d'ailleurs que le SPD ne voulait pas au départ.
Oui, parce qu'ils sont très réticents. Ils se sont fait un peu avoir, comme on dirait, un peu rapidement.
Ils se sont fait avoir de façon déloyale, ils sont sortis triés parce que Merkel a été plus forte, c'est tout. Donc ils ne voulaient pas recommencer. D'ailleurs, ce n'est pas leur candidat à la chancellerie qui sera la figure marquante. Ce n'est pas Steinbrück, mais ce sera Gabriel qui sera la figure marquante, à moins qu'il décide de rester au Parlement, à la tête du parti, de contrôler le groupe parlementaire. Enfin, c'est une culture très profonde. Donc il y a à la fois un comportement, une mentalité, des habitudes et des lois électorales qui y conduisent. Ensuite, vous avez vu pendant les 2 mois de négociation que toute l'Europe qui attendait les élections attendait ensuite le résultat. Le résultat et le contenu. Mais le contenu n'est pas stupéfiant. Il faudrait regarder aussi les résultats détaillés. Alors maintenant, ça leur donne un guide de gouvernement très précis pour toute la législature actuelle. C'est d'ailleurs pas très précis sur tout. Par exemple, sur les questions internationales, il n'y a rien de précis. Sur l'Europe, c'est très ouvert. En gros, c'est plutôt la ligne Merkel. Donc ceux qui avaient pensé à Paris ou ailleurs qu'il y a une sorte de ligne SPD entre guillemets plus allante sur le plan européen, quand on ne sait plus très bien ce que ça veut dire sur le plan concret, en fait l'arrangement se fait autour de la ligne de Merkel, et le SPD de la coalition n'a pas du tout envie que les Allemands se trouvent en obligation d'avoir à garantir. Donc il reste 2 questions piquantes, vous voyez que je la réduis en parlant exprès. Première question, est-ce qu'il reste une opposition en Allemagne? Est-ce que les Verts, eux, tout seuls, ou d'autres partis en dehors du Bundestag peuvent représenter une opposition en disant quoi, sur quoi, étant donné que Merkel les a vampirisés avec son changement sur le nucléaire, qui entraîne donc l'augmentation de la production de CO2 par l'Allemagne, au passage. Et la question, est-ce que c'est un exemple pour d'autres? Moi, je dirais que ça serait une bonne chose que, pas l'Union nationale, ça n'a pas de sens, c'est pas la guerre mondiale, mais que sur quelques points clés, essentielles, quelques réformes difficiles, il y ait des accords bipartisans. La France a été capable d'avoir des politiques bipartisanes. Regardez la politique familiale à travers les alternances, la politique des grands équipements, la politique de défense, des choses comme ça. Mais là, c'est tellement spécifiquement allemand que c'est à la fois fascinant, intéressant, ça devrait faire réfléchir. Et c'est de toute façon pas transposable mécaniquement. Donc il faut y réfléchir d'une façon plus...
Voilà, mais comme on a toujours le mot modèle allemand à la bouche, qui sait si là aussi, au fond,
il n'y a pas de modèle global, parce que c'est une histoire spéciale. On est content de ne pas avoir vécu de la même façon, mais ils en sont sortis d'une façon tout à fait extraordinaire et remarquable. Il y a certainement des choses à apprendre. On peut s'inspirer de certaines pratiques, certaines mentalités, notamment cette culture de la négociation, certainement.
À suivre donc, merci Hubert Védrine. Le Monde selon Hubert Védrine, comme chaque vendredi, bien sûr, à réécouter, télécharger sur franceculture.fr.